Vous écoutez France Culture.
En ouverture de tous ces rendez-vous scientifiques tous les jours à France Culture à 14h, Continent Science, toujours en direct de la maison de la radio, de la maison ronde, très exactement en direct du studio 1061. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, comme à notre ordinaire, tout à l'heure nous ouvrirons l'espace critique avec Lydia Benistiak. Mais avant, notre propos roulera autour et sur un très grand livre, un très grand ouvrage de philosophie morale, on peut dire, en tout cas à destination des animaux, intitulé tout simplement « Le droit des animaux », que l'on doit au grand philosophe Tom Regan et qui vient d'être, dont la traduction vient d'être publiée, et cela pour en parler avec son traducteur qui est philosophe, Henrik Utria, et bien sûr aussi avec une autre philosophe, Florence Burga. Mais pour respecter notre ordinaire, une fois encore, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens encore les oiseaux. Les troglodytes maculés, ce sont des petits oiseaux d'Amérique du Sud. Ces oiseaux aiment chanter et aiment chanter à plusieurs. Et s'ils apprécient tous et toutes la forme du chant collectif, ils affectionnent tout particulièrement le duo mixte, duo au cours duquel le mâle et la femelle chantent alternativement l'un à la suite de l'autre. Un duo si parfait qu'il donne d'ailleurs bien souvent à ceux qui l'écoutent l'impression d'entendre un seul oiseau au lieu de deux, alors encore une fois pourtant que chacune des deux parties chante une partition bien très spécifique. En analysant ces duos, des scientifiques se sont posé la question suivante. Lorsqu'ils chantent en duo, le troglodyte maculé connaît-il seulement sa propre partie ou bien la totalité du chant ? Pour cela, les chercheurs ont fait écouter à des troglodytes des enregistrements de leur propre duo tout en étudiant les variations de leur activité cérébrale pendant cette action. Résultat, contre toute attente, les chercheurs ont découvert que la diffusion de la totalité du champ active plus fortement les aires prémotrices du cerveau du troglodyte maculé, alors que dans la diffusion de sa seule partie, les choses sont tout à fait différentes. Les aires prémotrices, je peux le rappeler, sont celles qui permettent de planifier et d'organiser les mouvements. Bref, lorsqu'il chante en duo, cet oiseau connaît la globalité du morceau chanté par son ou sa partenaire et pas seulement sa partie. Le cerveau des oiseaux serait-il alors remarquablement adapté à cette forme de coopération ? Par ailleurs, les chercheurs ont également découvert que chaque duettiste attend la fin de la partie de l'autre avant de chanter sa propre partie. Ce résultat peut sembler un peu mince, pourtant il suggère clairement que le cerveau des troglodytes maculés et plus largement des oiseaux est tout aussi bien adapté à la coopération d'une certaine manière que celui des mammifères. Les capacités cognitives donc des oiseaux est ainsi revue à la hausse. Cela s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement récent, on peut dire, de réhabilitation des facultés cognitives des oiseaux, de tous les oiseaux. Des spécialistes aviaires ont montré que pas moins de 70% du cerveau des oiseaux est constitué de ce qu'on appelle le pallium. C'est une aire cérébrale dédiée au comportement complexe et équivalente au cortex chez l'homme. Démonstration donc par la polyphonie, avec l'art du duo, qu'il y a bien là une forme singulière d'intelligence. Bonjour Florence Burga.
Bonjour Stéphane Delisgeorge.
Alors je vous rappelle d'un mot, vous êtes déjà venu à ce micro, mais c'était pour le dernier ouvrage que vous avez publié, c'était bien Une autre existence sous titre La condition animale, tiens.
Oui.
Le précédent s'intitule Animal mon prochain, tiens.
Le précédent, c'était Liberté et inquiétude de la vie animale. Voilà. Voilà.
Et il y en a un qui s'est un
animal, plus ancien, oui.
Animal, mon prochain. C'est un beau titre. C'est une sorte d'événement pour vous quand même. Dès l'abord, c'est parce que je vais pas, je vais évidemment pas m'arrêter de poursuivre mes éloges concernant cette espèce de monument qu'on a entre les pattes. Est-ce que pour vous, ça forme presque événement philosophiquement ?
Oui, oui, bien sûr, c'est un événement philosophique. Ce livre était, je crois, attendu par notre petite communauté de philosophes travaillant sur la question animale. Et personne n'avait osé se lancer dans cette immense entreprise. Je pense que voilà, vous allez saluer cette entreprise. Et j'avoue que si ce livre n'avait pas été traduit en français, je ne l'aurais pas lu. Je me sentais tout à fait incapable de le lire en anglais. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et il apporte évidemment des éléments absolument décisifs au débat sur la difficile question du droit des animaux.
Eh bien, bonjour, Henrik Kutria. Vous voilà installé. Oui. Alors, j'y vais de mon commentaire. D'abord, merci. Vous avez mis presque 10 ans à traduire cet ouvrage. Avec une constance appuyée. C'est une extrêmement belle traduction parce que c'est un ouvrage technique difficile. Alors, c'est pas à vous que je vais dire, bien évidemment, que nous sommes face à, allez, on va dire, une sorte de chef-d'œuvre philosophique que d'aucuns comparent même, par exemple, ça peut faire repère pour certains qui sont peu habitués à la philosophie anglo-saxonne, dite analytique, à l'ouvrage de la théorie de la justice, par exemple.
Oui, c'est ça, le grand livre de Rawls.
Le grand livre de Rawls.
Le plus grand livre de philosophie morale du XXe siècle. Et donc, on a comparé le livre de Reagan à la sortie du livre de Rawls.
Il y a des difficultés particulières, à part la difficulté technique. Parce qu'en plus, il est très bien écrit, d'une certaine façon. Voilà un petit commentaire du début, mais il a des... Bon, il y a toujours cet humour anglo-saxon. Est-ce que je dois défendre les cellules cancéreuses, par exemple ? Enfin, bref, il y a que... Dois-je tuer Madame Léa ? Il y a toujours des malices comme ça qui sont une des caractéristiques, quand même, de la stylistique de la philosophie analytique.
Oui, c'est ça. Bah, donc, il a un style très clair. Donc, c'est pas si difficile à traduire. Il n'y a pas un vocabulaire très riche. C'est pas littéraire. Donc, c'est la logique avant tout. Et puis, la simplicité et la clarté.
Alors, évidemment, pour suivre ce que vous venez de dire, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, Henrik Kutria, évidemment, ce livre est de part en part dans ce qu'on appelle la philosophie analytique. Ce qu'on peut dire, donc, c'est que méthodologiquement, c'est tenir extrêmement compte des arguments opposés, en les exposant bien, à dire comment on va se positionner, comment on va les critiquer. C'est mener un travail d'élaboration conceptuelle de plus en plus fin, qui peut même aller jusqu'à la structure logique de l'inférence des propositions que l'on coordonne entre elles. C'est un livre aussi qui applique, comme souvent dans ce type de philosophie, presque toujours le principe de charité, c'est-à-dire que on accepte, sans se positionner de manière polémique, sans avoir d'argument, mais au contraire un principe de charité qui veut que l'on regarde avec soin, et on le voit dès l'abord dans cet ouvrage, puisque son grand adversaire théorique s'entend, c'est un autre philosophe, je vous laisse dire son nom, enfin c'est Peter Singer pour aller vite, et que les choses c'est d'abord comme ça. Est-ce qu'il y a stylistiquement quelque chose à rajouter, en tout cas pour caractériser ce style de philosophie, cette manière de philosopher ?
Vous l'avez dit, c'est ça, c'est l'énoncer des arguments le plus proprement possible, et puis si les arguments sont un peu défaillants, s'ils semblent contradictoires, on va chercher à les renforcer. On ne combat pas contre des hommes de paille. On cherche des vrais adversaires, on cherche à les réfuter entièrement. Donc l'adversaire, c'est effectivement Singer, Peter Singer, qui est un utilitariste, qui se propose de maximiser l'utilité. Alors,
c'est
on verra
ça.
Peut-être tout à l'heure.
Bien sûr, on y reviendra.
Et Descartes aussi.
Ah oui, et Descartes. Et d'ailleurs, même dans le traitement, juste d'un mot, dans le traitement de Descartes, on n'est pas dans cette espèce de révérence du philosophe, de l'historien de la philosophie. Là, c'est comme un adversaire actuel que prend Thomas Reagan pour s'opposer à ses thèses. On va le voir tout de suite. Bref, bon, voilà. Ce que je peux faire pour donner tout de suite le ton, c'est de prendre le risque d'une citation appuyée, mais je crois qu'elle résume bien, et puis après on pourra se lancer, pour vraiment expliciter pourquoi, d'une certaine manière, on est face à un monument théorique de philosophie morale appliquée aux animaux. La citation est la suivante. « Certains animaux ressemblent aux êtres humains normaux, et de manière moralement pertinente, ils portent au monde le mystère d'une présence psychologique unifiée, comme nous. Ils possèdent différentes capacités sensorielles cognitives, connative, volitique, ils voient, entendent, croient et désirent, se rappellent et anticipent, dressent des plans, ont des intentions. Ce qui leur arrive leur importe, ils éprouvent plaisir et douleur physique, ils partagent avec nous contentement, colère, solitude, frustration, satisfaction, astuce et imprudence. Tout ceci nous aide à définir la vie mentale et le bien-être corrélatif que nous connaissons mieux. Sont le nom et ce que nous connaissons mieux, pardon, sont le nom de, concernant ces êtres, raton laveur, lapin, castor, bison, écureuil et chimpanzé, et nous, et moi. Je crois que c'est, ça condense bien, non, Florence
Gonga?
Oui,
oui, c'est un très beau passage. Oui.
Alors, on peut peut-être commencer à donner quelques thèses. On peut d'abord peut-être aussi clarifier. Bon, il y a tout un courant, ce livre date des années 80, 83. La préface nouvelle qu'il en a donnée, que vous avez évidemment traduite, c'est une préface de 2004, où il fait une sorte de recensement des critiques qui lui ont été adressées. Ce livre s'inscrit dans ce qu'on peut appeler un compartiment plus large sur la philosophie animale, c'est-à-dire la philosophie qui se préoccupe de l'animal. Mais d'une certaine manière, il y a un premier volet qui serait plutôt une métaphysique de l'animal, savoir ce que c'est qu'un animal, en particulier dans les différences entre l'homme, animal, mammifère, développé. Et puis, alors, un autre volet, celui pour lequel donc Regan se met en position de fondation, c'est cette fois la philosophie morale vis-à-vis de l'animal, d'où le titre des droits des animaux. Il n'est pas le seul, encore une fois, il y a Peter Singer, et puis il y a des suiveurs, on peut penser à ceux qui viendront après, qui suivent, comme Nussbaum ou Francione, qui sont des auteurs, encore une fois, anglo-saxons. Il y a vraiment une tradition de réflexion qui fait que, en particulier sous la plume de philosophes francophones, Florence Burger, vous serez certainement d'accord avec moi, c'est énorme le travail accompli par les philosophes anglo-saxons.
Oui, oui, c'est énorme, évidemment, ça n'a pas d'équivalent... Ça n'a pas d'équivalent en langue française dans la mesure où ils se sont vraiment emparés de la question morale et qu'il semble que pour les philosophes français, cette question soit un petit peu délaissée. Alors bien sûr, je pense que nous devons mentionner le travail de Jean-Yves Goffi, hein, oui. Son livre qui est paru en 1993.
Que nous avions invité, qui n'a pas pu venir.
Du statut moral des animaux, oui. 1994. Du statut moral des animaux, où il faisait place hein, à cette pensée. Je crois que c'était le premier philosophe français à faire place à cette pensée... américaine en philosophie morale. Mais c'est vrai que la question morale n'a pas mobilisé d'une façon aussi technique, aussi précise, aussi argumentée en France.
Oui. Cela dit, on peut tout de suite, je peux vous solliciter dans ce sens, Florence Burgon, faire un petit panorama. En particulier, vous êtes dans cette espèce de petit secteur en nombre, hein, de gens qui ont réfléchi sur la question de l'animal, on va dire, pas directement frontalement peut-être sur la question, quoique avec vous, sur la question de l'éthique animale. Quel tableau pourriez-vous faire? Un tableau, évidemment, qui serait une sorte de concentré, un panoptique rapide.
Oui, très, très rapidement. Bon, bien sûr, si on veut avoir une idée hein, sur le long terme, de la manière dont l'histoire de la philosophie occidentale s'est préoccupée de la question animale, il y a le livre d'Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes, bien sûr, où elle retrace hein, tout ça. Pour ce qui concerne la recherche contemporaine, en France sur cette question, on peut dire qu'elle a une vingtaine d'années. Elle a une vingtaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand même l'inflation des recherches sur la question, le fait que cette question est entrée à l'université, que toutes les universités font des colloques sur cette question, que du coup, les gens se sont tout de même mobilisés pour y réfléchir. Alors que cette question était considérée comme franchement risible. Je crois qu'elle ne l'est plus, en tout cas par nos collègues, même si... tandis qu'il semble que dans la tradition anglo-saxonne, cette question morale est toujours été, mais Henrik pourra le préciser, est toujours été véritablement discutée comme une question philosophique à part entière, et non pas considérée comme...
Une curiosité
annexe, oui, voilà, sur ça. Laquelle n'importe qui aurait à dire parce qu'il a un chat ou un chien. Bon.
Ça remonte à Bentham, ça remonte à Mill, par exemple, pour ce qui est des auteurs du siècle, enfin du 19e.
Ce que j'aimerais signaler, et qui me fait bien sûr très plaisir, c'est de constater qu'aujourd'hui, un nombre croissant de jeunes chercheurs, de doctorants, font leur thèse en philosophie morale sur la question des animaux. Et ça, ça me semble un signe tout à fait important de l'intérêt portée à cette question et du fait qu'elle est désenclavée de préoccupations qui seraient annexes et qui ne seraient pas dignes d'un travail philosophique. Donc évidemment, avec un livre comme celui de Regan, hein, qui explore si profondément le fondement du droit, ça la porte très haut.
Et on peut encore une fois saluer, évidemment, votre initiative solitaire, hein, on peut le dire, hein, de traduction de cet ouvrage, de traduction à long terme, et puis aussi, bien sûr, l'initiative des éditions Hermann d'avoir publié ce texte essentiel. Suite donc de ce rendez-vous de Continent Science, intégralement dévolu au livre de Tom Regan, intitulé « Les droits des animaux ». Et puis cette indication, simplement, qui l'indication, c'est comme une fiche terrible, technique, de celui d'un carnage. Il y a très exactement 48 tonnes d'animaux, je dis bien 48 milliards de tonnes d'animaux massacrés chaque année. 48 milliards de tonnes d'animaux. 48 milliards de tonnes d'animaux, ça fait 180 millions d'animaux sacrifiés par jour. Ça fait 5 millions par heure. Ça fait 91 000 par minute. Et ça en fait 1500 par seconde. Comptez si je fais 3 fois. Si je parle pendant 3 secondes, et bien faites le compte. Voilà. Le chiffre du carnage, ça vaut quand même le temps, si on pouvait faire l'addition, qui est évidemment tout à fait absurde, des douleurs et des peines et des souffrances, tout concept qu'il faudra clarifier, ça fait quand même un gros volume. Voilà. Comment est-ce qu'on peut inscrire, en quelques mots, Henrik Utrilla, cette réflexion, on citait Bentham, on citait Mill, arrivons aux thèses tout de suite de l'adversaire premier de Tom Regan, qui est cet utilitariste, une certaine variante, hein, il y a beaucoup de variantes de l'utilitarisme anglo-saxon, de Peter Singer.
Peut-être que j'aurais apporté une toute petite précision
sur
le chiffre en fait, des animaux.
Oui.
En fait, il y a des animaux qu'on ne cite jamais, ce sont les poissons.
Oui.
Et en fait, on n'a que des tonnages, c'est-à-dire qu'on ne compte même pas le nombre d'animaux tués. Certaines associations anglaises ont essayé de faire ce compte.
Et alors ?
Et pour eux, ils arrivent à un chiffre au bas mot de 1000 milliards par an dans le monde. Ce qui fait que les chiffres que vous avez donnés par seconde, vous disiez 1500, mais si on prend en compte les poissons, ce serait 33 600.
Bon, l'arithmétique par seconde. L'arithmétique de la peine des animaux, très bien. Alors.
Sur Peter Singer.
Oui. Alors, sur Peter Singer, quelle est sa position donc d'utilitariste ? Et qui fait que, évidemment, pour fonder d'une certaine manière en droit, hein, Tom Regan va s'opposer. Comment peut-on résumer les choses ?
Est-ce qu'on peut dire un mot de l'utilitarisme ?
Qu'est-ce que c'est que cette théorie ?
Alors, c'est une théorie morale, donc qui nous propose une injonction morale, qui nous dit que ce qu'on doit faire, toujours, c'est maximiser, rendre maximum, faire en sorte qu'il y ait le maximum de choses. Maximiser quoi ? Le bonheur. Ça paraît vraiment magnifique comme théorie. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? La question suivante. Eh bien, par exemple, pour Bentham, qui est le fondateur de l'utilitarisme, c'est le plaisir. Donc, ce que doit faire, par exemple, le législateur, c'est faire en sorte que les citoyens aient le plus de plaisir possible.
Oui, parce que l'antinomie de ça, évidemment, c'est la peine et la douleur.
Voilà, c'est ça. C'est une ontologie moniste, en fait. Il n'y a que le plaisir qui compte, et son inverse, la douleur.
C'est pour ça qu'on dit que ces morales, en tout cas, sont conséquentialistes, pour en faire... Donc une expression nominale, hein, d'une certaine manière.
Hein.
On regarde les conséquences de son acte moral du côté de ses résultats positifs. Bon, alors, qu'est-ce qui ne plaît pas à Regan dans ce cas-là et qui fait qu'il va s'opposer dans un premier temps ?
Eh bien, Regan se demande, qu'est-ce qui se passe si on prend, par exemple, la théorie utilitariste de Bentham, qui est un hédonisme, qu'on considère uniquement le plaisir. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si on tue un animal sans douleur ? Si la seule chose qui est mauvaise dans le monde, c'est la douleur, eh bien, on n'a qu'à les tuer sans douleur, finalement. Et donc, Regan va dire, moi, je ne légitime pas ça. Je pense qu'il y a un autre fondement à l'éthique et que, finalement, ce problème qu'on aurait pour les animaux, il est valable aussi pour les humains. Qu'est-ce qui fait qu'un meurtre en secret ? C'est-à-dire que la population n'en aurait pas connaissance, donc ça ne créera aucune douleur à personne. Meurtre en secret d'une personne sous anesthésie, qu'est-ce qui fait que c'est condamnable ? Eh bien, une théorie utilitariste hédoniste ne peut pas rendre compte de ce mal-là. Et donc, Regan va essayer de montrer que c'est bien un mal et donc va proposer un autre fondement à l'éthique.
Alors ce fondement, bien évidemment, eh bien, il commence, et on n'est pas étonné de voir que le début du livre, c'est une discussion extrêmement serrée vis-à-vis des conceptions de Descartes, mais grosso modo, ce qui court dessous, pour simplifier les choses, et pour montrer que d'abord le premier impératif théorique de Regan est d'analyser la conscience, et en particulier la conscience des animaux, et puis c'est le titre de son deuxième chapitre, la complexité de la conscience des animaux, c'est que la philosophie occidentale va avec un philosophe en permanence et qui est impropre de l'homme. L'homme est un homme loquace, l'homme est un homme qui parle, l'homme est un homme qui peut passer des contrats, ainsi de suite. Et évidemment qu'il a là, du point de vue de cette philosophie, une sorte de barrière absolument infranchissable et qu'il y a une différence absolue de genre entre l'homme, l'humain, la nature, l'humaine condition, et puis ces sortes, alors chez Descartes, d'automates ou de machines que sont les animaux, et en tout cas pour ceux qui ont une variante plus adoucie de la chose et pas plongée dans ce mécanisme étroit de Descartes, c'est en tout cas de maintenir cette barrière. Quid de la conscience pour Hegel des animaux? Elle est beaucoup plus subtile.
Oui, il est darwinien, tout simplement. En fait, il fait jouer deux théories, l'une contre l'autre, la théorie de Descartes, qui prend très au sérieux. C'est ça aussi le côté analytique. C'est pas dire, Descartes était un idiot, ou Descartes. C'est le prendre au sérieux, de dire pourquoi est-ce que Descartes avait intérêt à les considérer comme des machines, ou les cartésiens, ceux qui venaient après Descartes, Malebranche, par exemple. Donc, essayer de voir qu'il y avait de bonnes raisons, finalement. On explique quand même un certain nombre de leurs comportements comme ça. Et puis, c'est une théorie extrêmement simple, au moins d'apparence. Donc, Hegel prend au sérieux tout ça. Et il fait jouer cette théorie-là, et sa supposée simplicité, contre la théorie de Darwin. Il essaye de voir quelle théorie a la meilleure puissance explicative. Et il montre que Darwin emporte la partie.
Oui. Voilà. Alors, complexité, c'est une analyse évidemment extrêmement serrée pour ce qui est de la complexité de la conscience des animaux. Et il bat en brèche toutes les idées convenues. C'est-à-dire, l'animal n'est pas capable de prévoir l'avenir. C'est à l'évidence qu'il y a une capacité de prévoir l'avenir. Évidemment, elle n'est pas à long terme. Est-ce qu'on peut prendre d'autres exemples encore qui montrent...
L'idée de la croyance.
Oui. C'est... Les animaux ont des croyances. Alors, qu'est-ce à dire?
Moi, c'est le niveau le plus important sur l'argumentation, c'est la croyance. Parce que c'est une analyse propositionnelle. Et donc, s'ils ont des croyances, ils peuvent avoir d'autres attitudes qui sont en rapport avec des propositions. Donc, ils peuvent douter, ils peuvent penser de manière générale, ils peuvent s'étonner. Donc, il va vraiment se focaliser sur l'idée de croyance. Et on a tout un tas de philosophes américains, mais c'est valable aussi en France, qui vont amener l'idée qu'on ne peut avoir des croyances que si on a un langage. Il faudrait parler pour croire quelque chose. Un des arguments que donne Hegel, c'est de dire, mais alors comment est-ce que vous concevez l'éducation? Comment est-ce qu'à un enfant, vous allez apprendre que ceci est un ballon? Vous pointez le ballon. Mais si l'enfant n'a pas de croyance préverbale, il ne pourra jamais croire que ceci est un ballon. Donc il ne pourra jamais prononcer le mot ballon. Donc il faut nécessairement des croyances préverbales.
Il y a aussi une autre caractéristique qui est tout à fait qui paraît devenir évidente à la suite de la lecture de Hegel, c'est par exemple aussi parmi tous ces attributs de l'humain et qui serait son propre, c'est que il y a la capacité et évidemment l'utilisation de concepts. Or, Fido, le concept d'os, c'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a une permanence substantielle, et que donc il a la catégorie d'identité qui fait que d'un seul coup, Fido regardant un os, il va pas se dire, tiens, c'est un caillou, non.
C'est ça. Prends un exemple un peu drôle, il dit, Fido vous voit par la fenêtre en train d'enterrer quelque chose dans le jardin, il pense que c'est un os, puis tout d'un coup, vous lui ouvrez la porte, il sort dans le jardin, il gratte, et puis il sort une canette de coca. Bon, il va être étonné, c'est une façon de voir comment réagit le chien. Une sorte de petit test.
Oui.
Bon, l'idée, en fait, sur l'idée des concepts, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à cette question-là? En fait, c'est face à une objection sceptique. Un grand philosophe qui s'appelle Stitch, un philosophe américain, qui a été récompensé en France il y a quelques années, et qui dit, mais au fond, les animaux, parfois, mon chien remue la queue. Voilà, je le sers à manger, il remue la queue, il m'entend sur le bas de la porte, il remue la queue, il voit une éclipse, il remue la queue. Donc, au fond, on ne peut jamais savoir ce qu'il croit. C'est l'objection à la croyance. Donc, si on ne peut jamais savoir ce qu'il croit... maintenant le statu quo, une poule dans une cage. On ne sait pas si elle préfère une cage plus grande, si elle préfère être dehors. Donc si on ne connaît pas leurs croyances, on n'a qu'à ne rien faire, on n'a qu'à continuer de les tuer. Donc Hegel va essayer de montrer que les animaux, on peut préciser le contenu de leurs croyances. Et donc il va s'intéresser au concept des animaux, au concept d'os.
Voilà, ils ont donc la possession de concepts. Est-ce qu'ils ont la conscience de soi-même?
Et il amorce un peu cette idée-là. Alors peut-être qu'on peut rejoindre les travaux de Florence Burga sur la perception de soi.
Alors, votre sentiment en lisant Hegel sur cette question?
Alors moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé justement cette analyse très précise qu'il fait de la conscience, parce que il vient à ce point qui est souvent aveugle, qui souvent n'est pas vu dans la définition de la conscience, où on a l'impression que la conscience se limite et se ramène au moment où le sujet fait retour explicitement sur ses expériences. Or, ce que montre la phénoménologie et Tom Hegel dans ce livre, c'est que la conscience ne se limite évidemment pas du tout à cette phase, en réalité assez étroite, de la vie de la conscience, mais qu'il y a toute cette présence à soi, forcément, d'un individu dans l'expérience. Et je crois que donc Hegel fait une distinction entre sentiment de soi et conscience de soi, puisqu'il dit que la question de la limite à tracer entre les animaux qui ont une conscience développée et ceux qui auraient une conscience moins développée, ceux qui sont sujets d'une vie ou qui ne sont pas sujets d'une vie, est parfois difficile à tracer. Et je crois que c'est important qu'il le souligne, parce que finalement, l'activité de la conscience, par définition, elle échappe à des critères positifs, hein, dans lesquels on pourrait... Elle ne correspond pas exactement à des éléments physiologiques positif qui pourrait la déterminer de part en part. Donc il est très précis aussi dans ses analyses, précisément parce qu'il se place dans la sphère pré-linguistique, comme Henry vient de le montrer, hein, à propos des croyances, etc. Et donc il est très précis sur toute la vie de la conscience qui se développe, hein, en dehors de la sphère linguistique, par exemple.
Autre exemple, avant d'arriver aux concepts qui sont absolument nonos, avec, on peut déjà le dire, hein, c'est-à-dire que un des résultats de ce travail d'élaboration et de fondement, puisqu'on va arriver à l'établissement de postulats, c'est qu'il y a, à l'évidence, et c'est pour ça que quand on lit ce livre, on a le sentiment que c'est un chef-d'œuvre, c'est que on a l'impression qu'il y a une sorte d'heuristique. C'est-à-dire que d'un seul coup, il donne en main des concepts qui décrivent des segments de la réalité qui avaient été mal perçus. Un simple distinguo, là encore, on va souvent parlant de la souffrance des animaux, et puis de manière un peu conjuguée et un peu mêlée, on parle de la douleur. Là, il est très ferme, et son analyse est extrêmement fine, hein, sur le distinguo entre la souffrance et la douleur. Florence Burgla.
Oui, je me rappelle parfaitement ces pages, parce qu'il montre qu'en effet, ce sont des degrés qui nous c'est font ça. Passer de la douleur à la souffrance. Si tout à coup, je me pince avec le micro, peut-être je vais ressentir une petite douleur, mais cela n'affecte pas mon expérience du présent, c'est trop peu. Si donc cette douleur peut être isolée, mais que la situation dans laquelle je suis est une situation qui répond à mes intérêts de bien-être, elle ne compte pas. En revanche, si elle s'intensifie, bon, et puis il montre qu'évidemment il y a des dommages qui peuvent être portés à l'individu, et qui le font souffrir, et qui ne sont pas nécessairement l'infliction de douleurs physiques. Mais l'enfermement, la privation de liberté, enfin peut-être on va développer ça.
La privation, bien sûr.
Il y a une chose qui m'a semblé très très forte aussi dans ce livre, et qui répond à un argument qu'on entend tout le temps concernant, par exemple, les animaux en captivité dans l'élevage industriel ou dans d'autres situations. Les gens disent « Oh, mais vous savez, ils n'ont pas connu autre chose ». Et je trouve que là, il répond de manière extrêmement, peut-être on en parlera tout à l'heure, extrêmement fine à cet argument.
Mais il a un slogan d'ailleurs qui est assez drôle, c'est-à-dire qu'il n'est pas évidemment pour des cages élargies, il est pour l'abolition des cages, enfin bref. Alors, cela dit, petite précision, il y en aurait évidemment, vu la complexité de l'ouvrage, mille affaires, mais en tout cas, au bout d'un moment, pour essayer de savoir de qui il parle, et pour arriver, puisqu'on va arriver bien sûr à discuter de la question des agents et des patients moraux, il donne une sorte de limite, c'est-à-dire qu'il définit, il dit animal, où les choses sont à peu près sûres, animal, mammalien, ou animal, mammifère, adulte, d'un an déjà. On voit pourquoi, adulte, eh bien parce que, effectivement, pour ce qui est, par exemple, de faire des projets, ou d'être un contractant de contrat, un enfant, celui qui ne parle pas encore, ou qui est immature, eh bien, il ne peut pas être agent du droit, bien évidemment, dans ce cas-là. Donc on voit déjà ces restrictions. Et puis ça lui permet aussi de faire frontières, c'est-à-dire que, eh bien, il trace une ligne précise, en définissant ainsi les êtres considérés, et à partir de là, on peut évidemment, on ne va pas considérer une cellule cancéreuse sous le prétexte qu'elle est vivante, qu'il faut la regarder, mais on ne va pas non plus regarder les virus, pour l'instant, ou leur sensibilité, ou leur croyance, pas plus que les bactéries, c'est bien ça. Hein.
Ni la boue, ni les bancs d'herbe.
Oui, ou les cailloux.
Voilà.
Alors, on peut peut-être, et ça va me contraindre à nouveau, peut-être à faire une citation, arriver à ces concepts majeurs, qui d'une certaine manière sont... arrive dans la partie conclusive, d'une certaine façon, de l'ouvrage, et qui en même temps sont vraiment le travail de sa novation, qui sont donc ce qu'a très rapidement cité Florence Burgla. Est-ce qu'il faut quand même encore rajouter quelque chose, par exemple, d'un mot? Qu'est-ce qu'il oppose à quelqu'un comme Rawls en théorie de la justice, qui lui est contractuel? Pourquoi? Ça permet d'amener peut-être une des choses qu'il faudra quand même qu'on essaye d'expliquer, c'est que Reagan veut fonder une théorie de la justice bien évidemment, et qui ne soient pas pragmatiques et utilitaristes, comme ceux auxquels il s'est opposé.
Donc, c'est ça, très exactement ça. Alors, sur Rawls, il y a l'idée qu'on connaît bien de voile d'ignorance, au fond. Vous imaginez que vous êtes des êtres désincarnés, des êtres égoïstes, vous allez penser qu'à vous-même, et vous allez chercher à savoir quel principe de justice, finalement, tournerait en votre faveur. Puisque vous êtes égoïste, c'est le principe que vous cherchez. Qu'est-ce qui va être favorable pour vous? Mais comme vous êtes derrière un voile d'ignorance, vous ignorez tout de la façon dont vous allez être incarné. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous êtes noir ou blanc? Est-ce que vous êtes un enfant? Oui, vous serez forcément un enfant au départ. Et donc, vous allez chercher des principes qui ne vont pas vous désavantager. Donc, vous n'allez pas prendre un principe raciste, parce que si jamais vous devenez noir, ça sera embêtant
pour vous. Ça ne sera pas bon pour vous.
Et donc, ce que dit Reagan, c'est qu'il ne va pas assez loin, ce voile d'ignorance. Comment on sait, finalement, qu'on ne va pas s'incarner en animal, finalement? Pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas la possibilité d'être un animal? Si on a un animal, on a un bien-être, on a une vie mentale. Alors pourquoi pas envisager des principes de justice qui auraient aussi une portée pour les animaux? Si on envisage le cas d'un sénile, peut-être que derrière la loi d'ignorance, on peut imaginer que plus tard on deviendra sénile, qu'on aura une démence ou quelque chose du genre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager d'être un animal? Donc il lui dit, au fond, vous n'allez pas assez loin, Rawls. Vous n'allez pas assez loin, vous n'envisagez pas, vous n'êtes pas assez rationnel finalement. Vous n'êtes pas assez abstrait dans votre raisonnement moral.
Je propose qu'on fasse une petite respiration musicale et qu'on passe à ces deux concepts fondamentaux qui sont absolument essentiels dans la réflexion de Thomas Reagan tout de suite. Passer de 3 minutes le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science entièrement dévolu au chef-d'œuvre, allez, je répète la chose, de Tom Reagan qui s'intitule Les droits des animaux et qui a été traduit donc par Henri Cutria qui est avec nous. Pour aller vite, pour concentrer, puisqu'il nous reste quand même deux concepts extrêmement importants qui sont peut-être les plus importants, je vais à nouveau faire une citation qui est la suivante pour définir ce que c'est que chez ce philosophe, ce qu'il appelle la valeur inhérente des agents et des sujets et des patients sociaux, moraux. La valeur inhérente est le critère le concept de sujet d'une vie. Être sujet d'une vie, c'est être un individu dont la vie est caractérisée par les traits distinctifs suivants. Je les lis le plus lentement que je peux. Son sujet d'une vie, les individus, s'ils ont des croyances, des désirs, une perception, une mémoire, et un sens du futur, y compris de leur propre futur, une vie émotionnelle, ainsi que des sentiments de plaisir et de douleur, des intérêts préférentiels et de bien-être, l'aptitude à initier une action, à sa poursuite, à poursuivre leurs désirs et leurs buts, une identité psychophysique au cours du temps, et un bien-être individuel, au sens où la vie dont ils font l'expérience leur réussit, bien ou mal, indépendamment logiquement de leur utilité pour les autres, et du fait qu'ils soient l'objet des intérêts de qui que ce soit. Voilà. Ce sont donc, selon ce critère de la valeur inhérente, ceux qui sont sujets d'une vie. Eh bien, ma foi, il faut élargir ce qui, jusqu'ici, en suivant le philosophe Kant pour aller vite, étaient les seuls qui relevaient donc d'une valeur inhérente. C'était les agents moraux, vous et moi, capables de faire des maximes qui puissent se transformer en universel. Eh bien non, on change tout. Les agents et les patients moraux sont aussi... C'est un ensemble extensif qui s'étend bien évidemment aux animaux.
Oui, oui, bah c'est l'objection qu'il fait à Kant et les enfants finalement. Kant nous dit que tous les animaux, tous les êtres humains ont une dignité. Mais si on regarde le texte de près, comment on justifie ça au sein d'une théorie kantienne? C'est impossible, puisque la dignité kantienne, elle est fondée sur la capacité à universaliser la maxime de son action. Donc si on demande à un enfant, bah, l'enfant il n'est pas capable de ça. Un sénile, il n'est plus capable de ça. Un démon non plus. Donc Kant finalement n'arrive pas du tout à fonder la dignité humaine. Certainement pas. Seulement des agents moraux. Et pour Hegel, c'est absolument contre-intuitif. C'est miner la fraternité, au fond.
Donc, encore une fois, il établit quelque chose qui peut s'appeler un postulat. C'est-à-dire qu'en plus, on peut lui attribuer ou lui donner comme attribut le fait d'être catégorique. Là encore, au sens kantien. Florence Burgos, ça vous dit quoi, tout ça? Est-ce que ça vous a convaincu de la chose, en tout cas de l'extension fondée, cette fois, des animaux, des comateux profonds, des enfants, des handicapés, lourds.
Oui, comme oui, bien sûr.
Des patients sociaux, relevables du droit.
Reagan clarifie une idée qui circule un petit peu, qui est que le fait d'avoir un droit ne peut pas être limité au cadre de la réciprocité droit et devoir. Ce qu'il montre, c'est qu'au fond, on peut être détenteur de droits sans pour autant exercer des devoirs. Donc ça, c'est l'objection que Henrik Utrillat vient de signaler, en montrant que le fondement du droit se trouve ailleurs que dans l'autonomie, la capacité à universaliser sa maxime, etc. Ce qu'il dit aussi dans la très belle citation que vous avez faite, je crois qu'elle est importante, c'est qu'il ne définit pas simplement les animaux de manière négative, comme on pouvait, alors soit mécaniste bien sûr, mais je pensais simplement aux critères de la souffrance qui est souvent mis en avant, oui. Ne pas les faire souffrir. Ce qu'il y a de très important dans cette définition, c'est aussi le fait de mettre en avant toute la richesse de cette vie mentale et de montrer que du coup, respecter cette vie, ça n'est pas simplement faire aux animaux des conditions dans lesquelles ils n'ont pas de douleur ou n'ont pas de souffrance, mais qui permettent à toute cette potentialité de se développer. Donc on a une approche très, très précise et très riche. Là, ça n'est pas une philosophie qui est sèche et qui est vidée de sensibilité à l'égard de l'expérience animale.
Voilà. Encore une fois, ceux qui se lanceraient dans cette aventure intellectuelle formidable qui est la lecture de ce livre, nous donnons que des formules abrégées d'un parcours qui est extrêmement minutieux, extrêmement lent. Alors, évidemment, dans cette préface de 2004, où il rétablit, où il fait d'ailleurs le compte de ceux en particulier qui ont utilisé des contre-arguments et qui sont d'une certaine manière des faussaires, des gens malhonnêtes, des mauvais penseurs. Il fait le tri et il respecte aussi évidemment ceux qui ont eu un certain nombre d'arguments. Il y a une chose qui est assez drôle qui roule sur l'exemple suivant, qui est devenu paradigmatique et dont Reagan dit que ça a fini par faire un petit atelier industriel de contre-objections. C'est la situation suivante. Nous voilà dans un canot de sauvetage, il y a 4 hommes et il y a un chien. Tiens. Alors si vous dites, comme Reagan, que nous sommes face, en regardant le chien, un sujet absolument, enfin, c'est un patient du point de vue du droit, mais en tout cas quelqu'un qui a une souveraineté absolue. Et donc, comment vous faites? Vous balancez qui à la mer si vous, d'un seul coup, l'impératif est que ce canot ne supporte que, allez, j'ai dit 4 humains plus un chien, qui ne supporte que 4 individus. Est-ce que vous balancez le chien à la mer ou est-ce que vous balancez un homme? Réponse.
Cette objection est fait fond parce que Reagan pense que tous les patients et les agents moraux sont égaux en valeur inhérente. Donc un homme, on présuppose, est égal à un chien, moralement. C'est-à-dire qu'on ne doit ni tuer l'un ni tuer l'autre. Et c'est la même chose pour les poissons qui doivent être considérés comme des patients moraux, et pour les oiseaux et pour les mammifères. Donc c'est une obligation de végétalisme. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on
y viendra, juste en conclusion.
C'était pour ça qu'on fait cette objection en disant mais votre théorie est incohérente parce que si sur un canot de sauvetage vous deviez choisir entre un homme et un animal, vous choisiriez l'homme. Contradiction de la théorie. Donc Reagan va devoir répondre à ça. Il dit, oui, on est égaux, mais il se peut qu'on ait des qualités de vie différentes. Entre vous et moi, on a peut-être des qualités de vie différentes. Et bien, il pense que, par exemple, les humains, de manière générale, ont par exemple, des sentiments esthétiques, des intérêts esthétiques, des intérêts liés aux mathématiques supérieures.
De faire des mathématiques supérieures.
À la connaissance, à la philosophie.
J'aime bien l'exemple.
Bon, oui. Et il nous dit ces intérêts-là sont a priori pas chez les animaux, pas qu'on sache en tout cas. Mm-hmm. Et il nous dit donc la qualité de vie d'un homme est de manière générale un peu supérieure. Et donc si on n'a pas le choix, si la barque va sombrer et que tout le monde va mourir et qu'il faut en sauver un, eh bien, il nous dit ce sera plutôt l'homme de manière générale parce qu'il a plus à perdre. Sa qualité de vie est supposée supérieure. Et là, il rejoint un peu Mill, qui disait vaut mieux être un Socrate insatisfait qu'un porc satisfait. Ça, c'est contestable. Il y a d'autres philosophes comme Sapontis, Steve Sapontis, qui est un philosophe important d'éthique animale, qui ont contesté cette position-là. Mais au moins, lui, s'adresse au problème et, voilà, et tranche le problème.
Autre formule, d'ailleurs, et conclusion, d'une certaine manière, parce que en plus, le long du cheminement, encore une fois, il s'agit effectivement de raisonnement argumenté. Est-ce que ça vous a touché, pratiquement l'un des derniers moments où il installe son postulat, hein, Reagan, il en vient à mobiliser le célèbre docteur Schweitzer, et en particulier, évidemment, dans la situation d'être au monde, et puis aussi de respecter, c'est-à-dire de faire attention, bien évidemment, la référence à l'idée d'être au monde. Ça doit résonner pour quelqu'un qui a plutôt la sensibilité phénoménologique, on va dire, allez, pour simplifier les choses, hein, à votre
oui,
égard.
Oui, bien sûr. Ce passage sur Schweitzer est important parce que là, il marque la distinction entre la question des animaux, du droit des animaux, et une révérence à la vie comme quelque chose d'abstrait ou aux plantes. Donc là, il permet d'éclairer un amalgame qui est souvent fait entre toutes les formes de vie, et en particulier les formes de vie végétale et animale. Il pose vraiment là une frontière, hein, une scission entre la vie végétale et la vie animale, pour les raisons que vous avez dites, hein, sur le fait d'être sujet d'une vie.
Alors, est-ce qu'on peut, avant d'arriver au terme de la conclusion, se dire que là encore, tout devient d'une certaine manière extrêmement hâtif, hein, parce que quand on a fait l'expérience de la lecture de cet ouvrage, où toutes les choses vont selon un cheminement qui a un rythme méditatif et réflexif très dense et très lent d'une certaine façon, on a l'impression que là, on en est presque au slogan quand on fait cette émission, mais on ne peut pas faire évidemment autrement. En tout cas, Peter Singer n'est pas abolitionniste, c'est-à-dire du point de vue de la morale utilitariste, de cette morale qui rentre dans la classe, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des conséquentialismes, il n'est pas abolitionniste. Reagan, c'est ferme, il arrive aux conclusions pratiques, il est contre l'élevage industriel, il est contre la chasse sportive et cruelle pour simplement le goût des chasseurs. Il est contre les animaux qui sont dans les zoos. Et c'est à cette occasion qu'il dit c'est pas élargir les cages des loups qui sont dans les zoos, c'est virer les cages et les loups qui sont dedans, qui doivent se retrouver dans la nature. Donc, il est abolitionniste et il dit combien c'est difficile d'être sur cette position. Comment est-ce qu'on peut la résumer autrement? Donc c'est une conséquence logique.
Oui, oui, oui. Alors contre l'élevage industriel et contre l'élevage tout court, hein, qu'il soit bio ou avec des grandes cages ou pas.
Oui, absolument.
Bon, contre l'élevage, est-ce que c'est difficile d'être abolitionniste? Non, c'est pas difficile. Pourquoi est-ce que ça serait difficile?
Non, je vous pose la question. Il dit, lui, par exemple, qu'il va très loin. Quand il regarde les 20 ans passés, où il dit qu'il s'est lancé, ça lui a été donné comme un don, dit-il, quand il s'est mis à travailler à cet ouvrage. C'est-à-dire qu'il était comme conduit dans sa réflexion. Bon, et puis, rétrospectivement, 20 ans après, il regarde et il dit, avec toutes les objections, avec la difficulté, c'est pratiquement une révolution culturelle qu'il faut. Et il faut infiniment de courage. Il faut infiniment de courage, parce que s'il n'y a pas un changement profond, s'il utilise le terme de changement culturel, c'est pas rien, hein, on n'arrivera à rien.
Oui, alors sur le don, en fait, c'est son processus d'écriture. Il dit qu'à un moment, arrivé au chapitre 6, il venait juste pour voir. En fait, il écrivait, la machine écrivait tout seul. Enfin, il réfléchissait plus, ça allait de soi. Et alors, ce qu'il dit aussi, dans cette même préface, c'est qu'en fait, au départ, quand il écrivait le livre, il n'était pas abolitionniste. Il est devenu par la force de l'argumentation. La logique l'a contraint à devenir abolitionniste. C'est-à-dire quand il a pensé, quand il a posé le postulat de la valeur inhérente, qu'il a vu qu'il y avait des sujets de vie animaux et humains, et bien, il est devenu abolitionniste. Et quand il a pris considération de ce que c'est qu'un droit, parce qu'il y a une réflexion sur le droit, qu'est-ce que c'est qu'un droit, un droit fondamental, ben il s'est dit qu'un droit, c'était un atout, et que ça coupait sur tous les intérêts, y compris ceux à la vivisection, à l'expérimentation animale.
Donc, Oui. Il y a une conclusion où il utilise, vous avez fait très attention, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Henrik Utrilla, à l'espèce d'envoi final. Vous avez fait très attention à la forme littéraire. Et vous avez trouvé le terme de labile. Hein. C'est-à-dire qu'il faut il faut pas des cœurs labiles pour défendre la cause, parce qu'il faut avoir une volonté tendue. Bon, vous êtes une philosophe qui est... Alors, sur ces positions, d'une certaine façon, votre première réaction, après je vous poserai une question plus générale, conclusive.
Ma première réaction, c'est, je crois que Regan rend un très très grand hommage à la philosophie en disant qu'il n'était pas abolitionniste en commençant à écrire et que la puissance de l'argumentation l'a conduit. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très très bel hommage au travail philosophique. Voilà, c'est quelque chose qui vous amène éventuellement à des conclusions aussi radicales que celles d'un appel à rompre avec toute une culture qui est quand même... vous avez rappelé ces chiffres,
oui.
Qui est fondée sur le meurtre animal. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça.
Dans la suite de ce que vous venez de dire, Florence Burguin, et c'est pratiquement les phrases conclusives pour lesquelles je vous sollicite l'un et l'autre, il ne faut pas de malentendu, c'est un livre qui fait 700 pages, qui demande pour la lecture une attention soutenue. C'est un livre qui détaille infiniment dans son cheminement conceptuel chacune des catégories utilisées, les raisonnements. Bon, ça n'est pas une sorte de vade-mecum qu'on peut mettre dans sa poche pour être un militant de la cause abolitionniste, pas du tout. Ça correspond, et c'est là où je voudrais votre assentiment, et en tout cas qui montre l'excellence, et qui donne écho à ce que vous venez de dire, Florence Burguin, qui donne donc une assise réflexive fondée sur ceux qui, au bout d'un moment, finissent toujours par dévouer les animaux. Il y a quand même le propre de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe avec la misère du monde sur les humains, ainsi de suite. Là, on a un effort soutenu qui donne ce chef-d'œuvre, qui n'est pas un manuel de lutte, mais qui est un manuel de réflexion détaillé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma conclusion ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est justement la puissance de ce livre. Si on fait l'effort de le lire jusqu'au bout, d'entrer dans cette argumentation, il me semble que les cartes sont complètement rebattues et que on ne peut plus voir les choses de la même façon. Et qu'en effet, la manière dont il éclaire le fondement du droit nous conduit à réviser de fond en comble nos pratiques. Voilà.
Vous l'avez rencontré
brièvement. Brièvement au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, quelques années.
Vous avez pu lui dire que vous étiez son traducteur assidu.
Brièvement, oui, j'ai dû le noter.
J'espère qu'il vous a remercié.
C'est à l'époque, le projet était en cours, c'était compliqué.
En tout cas, maintenant, il va pouvoir avoir une traduction en main. Hein, c'est une bonne chose. Bon, on ne va pas parler que du livre de Regan, puisque vous avez écrit, vous, Henrik Utrilla, un ouvrage qui s'appelle Le droit des animaux. Bon, théorie du mouvement avec comme sous-titre. Hein. Et puis, il est préfacé par Armand Farraki. C'est une publication Droit des animaux. C'est une maison d'édition. Voilà, on essaiera de le mettre ça sur le site. En tout cas, mille merci. Et puis, je ne peux que souhaiter que beaucoup se plongent dans cet ouvrage, le mettent dans leur bibliothèque, commencent à le lire. Ça demande du boulot. Mais on est payé en retour, non ? Hein ?
Vous parlez ? Oui, oui, oui.
Merci en tout cas, Florence Burguin. Merci, Henrik Utrilla. Et donc, Tom Regan, Les droits des animaux, est donc traduit, ce grand texte américain, traduit de l'américain et publié, qu'on remercie aussi aux éditions Hermann. Voilà. Allez hop, sans transition, ouverture de l'espace critique et bonjour Lydia Benistiak.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On vous a convaincu, j'espère, je vérifie sur vous, vous êtes immédiatement à côté de nous, on vous a convaincu de l'intérêt.
Ah complètement, bon. les arguments sont très étayés.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Voilà, alors moi je vous ai apporté aujourd'hui une petite machine à voyager dans le temps.
C'est bien, voilà, voyageons dans le temps.
Je vais vous parler d'un premier ouvrage qui s'appelle « Bref récit du futur, prospective 2050, sciences et sociétés », qui est signé Pierre Papon et publié aux éditions Albin Michel. Et tout de suite, je vois le point aveugle, c'est-à-dire qu'en 2050, il n'est nulle question du droit des animaux, sachez-le. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Papon est physicien, il a dirigé le CNRS et puis l'IFREMER. Et donc, il se livre à cet exercice de prospective dans tous les domaines de recherche, de la cosmologie à la robotique, de la neurologie à l'informatique, de la thérapie génique à la transition énergétique. D'une manière générale, il reste assez prudent, c'est-à-dire qu'il fait déjà un état des lieux de ce que la science a atteint jusqu'à aujourd'hui, puis il se lance dans quelques pistes. Alors, il est plus à l'aise en physique, bien sûr. Les thèses les plus rafraîchissantes qu'il explore, c'est l'éventuelle non-homogénéité de l'univers pour obéir aux lois de la physique, ou bien par exemple l'idée de non-permanence de ces lois. Hein, c'est les idées les plus originales qu'il développe. Et puis évidemment, en tant que responsable de politique scientifique française, il a une conscience aiguë du poids de l'économie et des dérives financières. Donc il explore beaucoup ces questions, de la finance et de la politique. Et puis, bizarrement, enfin j'étais étonnée finalement, il analyse quand même la crise, la défiance du public vis-à-vis des sciences en général, et il est complètement favorable à une certaine approche citoyenne des sciences, avec une voix au chapitre des non-scientifiques. Donc comme vous le savez Stéphane, ce qui est le plus difficile à prévoir, c'est l'avenir, évidemment. C'est pour ça que je vous propose de faire l'exercice dans l'autre sens. Je vais vous parler d'un autre ouvrage intitulé « Souvenirs du futur », un collectif qui est publié aux presses polytechniques et universitaires romandes, qui lui donc vous propose de faire l'histoire de l'imaginaire conjectural dans l'autre sens, comment les gens du passé imaginaient le futur qui est notre présent d'aujourd'hui. Vous
d'accord.
Me suivez jusque
oui,
là
oui,
voilà.
Absolument.
Donc cet ouvrage,
l'imaginaire des anciens.
Exactement.
Le futurible des anciens, d'accord.
Est-ce que ceux qui ont imaginé le futur dans le passé ont réussi finalement à avoir des visions...
À toucher juste.
À toucher juste, exactement. Alors ce livre finalement est le catalogue de la Maison d'ailleurs qui a été fondée par Pierre Versin, qui est un spécialiste de l'utopie et des voyages extraordinaires. Ce musée est basé à Yverdon-les-Bains en Suisse et donc il est abondamment illustré, très très beau, pour prédire le monde. Alors on va... de Thomas More qui compose Utopia en 1516, donc tous les utopistes. On a la lettre d'un habitant de la Lune en 1834, on a Louis-Sébastien Mercier qui publie en 1771 l'an 2440 Rêve s'il en fut jamais, et puis évidemment on a toutes les dystopies qui vont de H.G. Wells à George Orwell à Karel Čapek à Huxley à Robida à Zamyatin. On fait un grand voyage dans tous les...
Karel Čapek, Monsieur Robot, vous l'aimez bien celui-ci, hein,
tout à fait.
Vous tout le connaissez bien et vous l'aimez bien. Bon.
Tout à fait.
Le monsieur robot.
Voilà. Et puis, voilà. Est-ce que vous savez, si par exemple je vous parle de l'astéroïde B612, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Bien, figurez-vous que c'est le personnage, le voyageur interplanétaire peut-être le plus célèbre du monde qui venait de cet astéroïde B612.
Ah bon, Florence Burgat, elle a levé le doigt, elle connaît.
Je
oui.
Vois le petit prince,
voilà.
Ça me rappelle.
Ah. Tout à fait. Bien, figurez-vous. Mmh. Qu'avec son apparence juvénile, le petit prince fête ses 70 ans déjà. Il n'a pas une ride pour celui qui a appris à ne jamais confondre un géographe et un explorateur. Et lui qui nous présente ce businessman qui veut posséder les étoiles, ces petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Il est sérieux, lui, le businessman. Il n'a pas le temps de rêvasser. Donc, c'est un très bel ouvrage qui s'appelle « La belle histoire du petit prince » qui est publié chez Gallimard et qui propose des lectures transversales et aussi une genèse du texte avec un passage inédit qui est tout à fait touchant. Et puis, oui.
Mais non, non. Je vous écoute.
Voilà. Et je vais vous parler toujours dans une vision un peu de prospective. Je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil au 6 rue Récamier. C'est une exposition qui s'appelle Envie, en deux mots, Envie, ce sont des artistes qui ont travaillé avec des biologistes de synthèse et qui se sont posés poser des questions sur non seulement sur ce qu'elle était capable de faire aujourd'hui, mais sur un petit peu de prospective en voyant comment ils pouvaient modifier alors aussi bien le mobilier, les objets usuels, nos vêtements, les chaussures, la nourriture, imaginer des nouveaux médicaments. Et donc, ils posent des questions vraiment. Alors, ça aurait pu s'appeler Science sans conscience parce que quand on rentre dans cette exposition, on rentre vraiment dans une sorte d'univers à la Cronenberg. C'est très troublant puisque on a des textures qui sont quasi vivantes et qui d'ailleurs posent un peu des questions éthiques. Alors, on n'a pas parlé du végétalisme, mais pour vous donner un exemple, l'un des artistes a imaginé avec des nanoparticules magnétisées les rentrer dans des cellules de plantes et ensuite obliger les plantes à pousser dans certains sens plutôt que d'autres. Alors, est-ce que ça pose des questions éthiques, puisqu'on n'a pas d'idée de savoir, pour savoir si la plante souffre ou non? Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'un des artistes qui... Alors, il pose d'autres questions, par exemple, est-ce qu'on va bientôt se greffer des bijoux? Puisque la greffe va être très simple, on va pouvoir se greffer des bijoux et puis les dégreffer quand on n'en aura plus besoin. Voilà, il y a un côté un peu cauchemardesque dans
greffer ce... Greffer des bijoux.
Oui, voilà. Il y a des réflexions très étranges dans cette exposition. Et puis, l'un des artistes a imaginé, comme vous savez, on consomme pratiquement deux fois plus de ressources que la Terre ne peut en fournir à l'être humain. Et il y a un des artistes qui a imaginé, pour résoudre ce problème, de diviser l'être humain par deux, alors non pas en tuant la moitié de l'humanité, mais en nous réduisant génétiquement. C'est-à-dire qu'au lieu d'un être humain qui mesurerait 1m60 en moyenne, il ne mesurerait plus que 80 cm en le modifiant génétiquement. Et du coup, il consommerait deux fois moins et il tuerait deux fois moins d'animaux. Évidemment.
La solution.
Alors,
à la surpopulation, la réduction génétique de la taille de l'humain. C'est pas mal. Une population, une humanité de nains, tiens, qui passe à une consommation de nains.
Voilà, alors donc, c'est tout à fait étonnant, puisque du coup, il propose finalement de modifier l'homme pour éviter de faire les dégâts qu'on connaît. Et du coup, on se dit, quelle est l'argumentation éthique qu'on va pouvoir opposer à cette façon de résoudre le problème? Alors, c'est très intéressant, surtout la chose extrêmement amusante, c'est que l'artiste en question, c'est une sorte de géant, il mesure 2 mètres. Et on comprend qu'il y a peut-être une source plus profonde à ce genre de questionnement. Donc, cette exposition est gratuite, donc
Elle est gratuite, elle est un petit peu ironique quand même.
Ah non, pas tellement, parce que justement, on a un petit peu peur parfois. Par exemple, il y a des vêtements et des chaussures qu'on fait pousser avec des molécules génétiquement modifiées. Tout ça est très étrange. Hein, je pense que ça dépend vraiment du public. Chacun aura son regard assez personnalisé.
Vous êtes intéressée, Laurence Dumourguin, à la chose?
Je vous écoute pour le moment. Je ne sais pas si.
Toutes les coordonnées sur le site.
Bon, très bien. Mais en tout cas, merci Lydia Benistiak.
Je vous en prie.
Et merci à vous, donc, encore une fois, Florence Burga et Henrik Kutria. Mais c'était Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent toujours et encore les bienvenues. Aujourd'hui, à la console technique, Élise Le, Claire Poissignon, Dany Journaud, Lydia Benistiak, Stéphane Deligeorge. Continent Science est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous reportez bien sûr au site internet franceculture.fr à l'émission Continent Science. Et là, évidemment, vous avez une plus grande liberté d'écoute.